Mais d'abord, je remercie le Père Gichko, je vous remercie tous de prendre votre temps du dimanche après-midi pour être là, n'est-ce pas? Le sujet peut sembler un peu bizarre, effectivement, j'ai commis un livre là-dessus. Normalement, les orthodoxes ont 1000 sujets à aborder plutôt que celui-là, après tout, plutôt que ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe dans la religion aux États-Unis et dans ce qui se passe au fond dans ce qu'on pourrait appeler d'ores et déjà la religion américaine. Mais il s'avère en fait que c'est un sujet qui nous concerne. Tous, dans le sens où, évidemment, le sort de l'orthodoxie, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sort de l'orthodoxie est, comme le sort de toutes les religions à prétention universelle, un sort planétaire, et que ce sort de l'orthodoxie est largement dépendant, en fait, largement été dépendant pendant la plus grande partie du XXe siècle de l'hégémonie du communisme, n'est-ce pas, qui a tenu l'orthodoxie prisonnière, en quelque sorte, derrière le mur de Berlin, l'orthodoxie slave, l'orthodoxie roumaine, l'orthodoxie russe, l'orthodoxie bulgare, l'orthodoxie ukrainienne et quantité d'autres formes de culture orthodoxe, l'orthodoxie serbe aussi, bien sûr, et je dirais tous les univers qui vont avec. Et puis d'un autre côté, ce même monde orthodoxe a été tenu, en quelque sorte, dans une forme un peu de cristallisation par l'islam. Et ça, c'était l'autre côté de l'orthodoxie, à savoir l'orthodoxie de descendance plus hellénique, l'orthodoxie arabe, l'orthodoxie du patriarcat de Jérusalem, l'orthodoxie du patriarcat d'Antioche, les mondes orthodoxes affiliés, je dirais, à la grande mouvance, qui sont les mondes coptes, éthiopiens, syriaques et autres. Et puis, évidemment, le patriarcat de Constantinople en Turquie, parce que ce n'était pas simplement le monde arabe, mais c'était le monde musulman dans son ensemble, n'est-ce pas, qui tenait l'orthodoxie, en quelque sorte, pétrifiée. Vous voyez. Donc, en 1989, il s'est passé plusieurs choses, et parmi les choses qui sont passées, il y a eu, évidemment, la chute du mur de Berlin, et pour nous, orthodoxes, le retour de l'orthodoxie sur la scène de l'histoire. Et voilà que une dizaine d'années s'est écoulée, 1989-2001, ou 1991-2001, entre la première guerre du Golfe et l'attentat contre les États-Unis qui allait précipiter la deuxième guerre du Golfe, n'est-ce pas? Et en fait, au cours de cette décennie que certains ont voulu voir comme la décennie de la mondialisation heureuse, couvée à nouveau tous les ferments, je dirais, de la nouvelle donne mondiale, qui est une donne qui voit aujourd'hui l'antagonisme, principalement, tout de même, des États-Unis et du monde arabo-musulman, et du monde musulman, même plus qu'arabo-musulman, puisque l'Afghanistan, le Pakistan représentent aujourd'hui des centres très importants d'un islam qui n'est pas arabe, n'est-ce pas? De même que le premier pays musulman au monde n'est pas un pays arabe, mais l'Indonésie. Eh bien, l'orthodoxie se retrouve prise, je dirais qu'elle était pétrifiée de 1917 à 1989, sous ces deux ensembles, qui étaient le communisme et qui étaient l'islam, elle se retrouve aujourd'hui étranglée entre ces deux nouvelles réalités, que sont le monde américain, je dirais, on pourrait dire l'hémisphère nord, le monde américain qui entraîne tout l'hémisphère nord, et un hémisphère sud qui est toujours plus agité, qui est toujours plus grouillant, et dans lequel l'hémisphère nord, au fond, importe ses guerres, n'est-ce pas ? Puisque s'il n'y a plus de guerre dans l'hémisphère nord, il y a toujours plus de guerre dans l'hémisphère sud. Voilà. Hein ? Et donc, c'est ce rapport-là qui m'est venu, en fait, qui m'est apparu très clairement comme quelque chose qui nous interrogeait en tant qu'orthodoxes, qui interrogeait notre destinée, parce que dernière, et particulièrement notre destinée d'orthodoxe en France et en Europe occidentale, parce que l'oppression communiste, le poids des révolutions, le poids aussi de l'oppression économique, avait provoqué un phénomène sans précédent dès la fin du XIXe siècle, qui était un mouvement de diaspora, c'est un mauvais mot, n'est-ce pas, parce que les juifs, eux, sont en diaspora, mais les orthodoxes sont en diaspora perpétuelle tant qu'ils ne sont pas au ciel, qui est leur seule vraie patrie, n'est-ce pas, hein. C'est un mauvais concept, il n'y a pas de... Hein, bon. Mais donc en diaspora, c'est-à-dire l'orthodoxie avait vécu des flux migratoires très importants qui faisaient que désormais l'orthodoxie avait parachevé son universalité concrète. Elle était présente sur les cinq continents, n'est-ce pas? Elle était présente sur des terres où elle n'avait pas été présente en tant qu'orthodoxie, ou alors elle avait été présente au nom d'une théorie de l'histoire qui faisait que comme le premier millénaire, grosso modo, de l'histoire chrétienne était une histoire orthodoxe, les orthodoxes se réappropriaient en quelque sorte cette histoire. Évidemment, ils ne pouvaient pas être indifférents à Saint-Irénée de Lyon, par exemple, n'est-ce pas, dans l'histoire des Gaules, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils étaient présents en tant qu'orthodoxes, en Europe occidentale, mais aussi aux États-Unis, et pour finir en Océanie, Australie et ailleurs, et que désormais, c'était aussi dans ces réalités-là que se jouait l'avenir du monde orthodoxe, n'est-ce pas? Pour un simple exemple, il y a aujourd'hui plus de fidèles dans l'archidiocèse antiochien d'Amérique, c'est-à-dire dans le diocèse du patriarcat d'Antioche, syro-libanais, qui couvre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y a désormais plus de fidèles dans ce diocèse que dans le patriarcat d'Antioche lui-même. Et il y a plus de puissance financière et politique dans ce diocèse qu'il n'y a dans le patriarcat d'Antioche qui est basé à Damas. Hein. Et en fait, le patriarcat d'Antioche survit aujourd'hui grâce à l'appui du diocèse antiochien d'Amérique. N'est-ce pas? C'est une réalité, voilà. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est un peu toutes ces imbrications qui font que je crois qu'on peut n'échappe pas complètement à ces questions lorsqu'on est orthodoxe, on doit se poser des questions. Il y aurait peut-être un sentiment naturel de l'orthodoxie et des orthodoxes à se sentir complètement en lien avec d'un coup une Amérique triomphante, une Amérique impériale, une Amérique qui distribue le bien et le mal, qui distribue les bons points, qui est là pour amener la démocratie partout, etc., n'est-ce pas? Mais je dirais que les orthodoxes doivent faire attention, la théorie du white power ne s'adresse pas vraiment à eux, parce que d'abord beaucoup d'entre eux ne sont pas vraiment blancs, et même quand ils sont à peu près blancs, ils sont largement considérés comme des métèques par les occidentaux, n'est-ce pas toujours? Donc je dirais, faisons garde de ne pas s'assimiler comme ça d'un coup à des blocs occidentaux, etc. L'orthodoxie, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas non plus l'Orient. L'orthodoxie, c'est l'Orient de l'Occident et c'est l'Occident de l'Orient. C'est un monde intermédiaire qui est à cheval sur les mondes et qui, pour ça, a une vocation de transmission entre des mondes qui, sinon, seraient hermétiques entre eux, n'est-ce pas? Cette fameuse question de savoir si la Russie est en Europe ou en Russie, ou en Europe ou en Asie. Et vous connaissez peut-être la réponse d'André Malraux à cette question. Il disait, la Russie n'est ni en Europe ni en Asie, la Russie est en Russie. Et c'est une façon de voir les choses aussi, mais pour toutes les populations aussi orthodoxes des Balkans, pour toutes les populations orthodoxes du Proche-Orient, pour toutes les populations orthodoxes de grande tradition orthodoxe qui se trouvent en Inde depuis le 5e siècle, pour l'Éthiopie elle-même qui est au cœur de l'Afrique, n'est-ce pas? L'orthodoxie, c'est toujours un monde du métissage, au sens où les orthodoxes ne sont pas métissés dogmatiquement, ecclésialement, dans leur conception même de la tradition, etc., mais qui sont des hommes et des femmes d'ouverture et de dialogue, parce que justement, l'orthodoxie n'est ni d'ici ni de là-bas, n'est-ce pas? Donc c'est à tout ça que je pensais lorsqu'est arrivé le dernier point, d'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure. Les orthodoxes sont aujourd'hui, je crois, indispensables dans cette sorte de prophétie autoréalisée qui voit. C'est la théorie de Samuel Huntington, qui est un grand stratège américain, un penseur américain, mais un stratège aussi lié au lobby américain des armées, au lobby militaire, etc., qui pense que. Bon, il y a une théorie très simple, c'est que jusqu'en 1789, tous les conflits ont été économiques. C'est-à-dire on faisait la guerre pour prendre à l'autre, n'est-ce pas? Depuis 1789 et jusqu'en 1989, les conflits ont été idéologiques. L'empire du bien contre l'empire du mal, le progrès, la révolution contre la conservation et le libéralisme, etc. Et ils pensent que depuis 1989, nous assistons à des conflits qui vont avoir pour nerf de la guerre, la religion. Et il distingue donc des grands blocs, un bloc occidental qui est pour lui catholique et protestant, un bloc évidemment musulman, un bloc asiatique qui est la Chine, grosso modo, hein. Chaque fois ça recouvre des territoires et des puissances, et un groupe slavo-orthodoxe, amené par la Russie, qui selon lui est condamné à disparaître entre le bloc occidental et le bloc musulman, n'est-ce pas? C'est intéressant comme théorie, oui. Donc je disais ça, donc évidemment il faut prendre garde à ce que nous ne participions pas, je dirais, de la réalisation active de ces théories qui sont tout de même des modèles de propagande aussi, n'est-ce pas? Donc je crois au contraire, quand on voit cette précipitation aujourd'hui de la confrontation entre l'Occident et l'Islam, que les Occidentaux veulent parfois faire paraître comme une opposition entre le christianisme et l'islam, n'est-ce pas? Non pas simplement entre un Occident et un Orient, mais entre le christianisme et l'islam, s'aperçoit que les chrétiens orthodoxes sont des chrétiens qui ont en fait la plus longue pratique de l'islam, n'est-ce pas? Des contacts avec l'islam et des contacts avec les musulmans, n'est-ce pas? Et que s'ils ne sont pas pour l'angélisme d'un certain dialogue tel qu'il a été mené à partir de Vatican II, où n'importe quelle différence était en quelque sorte exaltée pour elle-même, et où les musulmans étaient vus comme des partenaires forcément francs et loyaux d'un dialogue qui était compris de la même façon. Bon, si les orthodoxes ne sont pas, je dirais, illusionnés sur cette dimension-là, ils ne sont pas non plus dans l'islamophobie galopante de l'Occident, où tout musulman serait nécessairement une sorte de pourvoyeur de bombes, n'est-ce pas? Ils ont une expérience historique différente à proposer, là aussi, je crois. Donc, pour toutes ces raisons, lorsqu'est arrivé le 11 septembre 2001, j'ai été très amusé parce que j'avais eu la chance de faire des études de théologie aux États-Unis auprès du père Jean Meyendorf à Saint-Vladimir, pendant 3 années à peu près. Et d'un coup, en fait, attentat terrible, le World Trade Center, n'est-ce pas, Ground Zero, l'Amérique était ramenée à son origine, c'était l'effacement, l'éradication du rêve américain. Ces attentats terribles, certes, surprenants, parce que pour la première fois, l'Amérique était frappée sur son propre sol. Pas. Il y avait l'intégrité du territoire américain qui était rompue. Enfin, c'est la deuxième fois depuis Pearl Harbor, mais Pearl Harbor, c'était quand même un peu moins l'Amérique que les tours de New York, n'est-ce pas? C'est un peu plus loin, quand même, je veux dire. Bon. Et donc, d'un coup, cette chose spectaculaire, la mondialisation fait que les images circulent partout. Vous êtes certainement, les uns et les autres, vous êtes arrêtés dans la rue parce qu'il y a des tas de gens qui, dans une vitrine d'un magasin de télé, regardaient les avions se fracasser et enflammer les tours. Ou on vous appelait, on vous a dit « allume ta télé », enfin, etc. Enfin, le monde entier s'est retrouvé spectateur d'un coup de cet attentat. Légèrement différé de quelques heures, n'est-ce pas? Les images revenaient sans cesse. Puis d'autres images ont suivi dans la soirée. C'était celle des Américains, des New-Yorkais qui se rendaient en masse dans des temples, dans des églises, dans des synagogues. Et là, ça a été un truc stupéfiant. Les Français se sont dit, ce n'est pas possible. Comment font-ils pour aller dans des églises, n'est-ce pas? Pourquoi vont-ils dans des églises? Puisque les Français s'étaient accoutumés à l'idée que l'Amérique, finalement, c'était, n'est-ce pas, le monde à venir, qu'il nous fallait faire encore des efforts pour devenir des Américains, en quelque sorte, c'est-à-dire des progressistes intégraux, n'est-ce pas? Mais pour nous, le progrès, ça voulait dire ne plus aller à l'Église. Donc, si les plus progressistes que nous allaient à l'Église, qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était cet archaïsme chez les ultra, dans la Mecque, je dirais, du progressisme? D'un coup, on pratiquait des archaïsmes qui n'avaient plus lieu d'être chez nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand le territoire national a été frappé, on se réfugiait dans les églises. Et pire que ça, d'un coup, à la télévision, on découvrait que dans les églises américaines, les temples, les synagogues, parce qu'ils se ressemblent tous, n'est-ce pas, ces lieux de culte, il y avait un drapeau américain partout. Et que les gens qui se réunissaient, c'était pas simplement pour implorer Dieu ou leur Dieu, mais c'était aussi pour exalter les vertus patriotiques. On découvrait une Amérique patriote et religieuse. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, n'est-ce pas? Comment ça, l'Amérique, c'était pas Hollywood, ce n'était pas les amours adultères du président Kennedy avec Marilyn Monroe, ce n'était pas les films d'Hollywood, n'est-ce pas? Ce n'était pas les quartiers gays de San Francisco et de New York, ce n'était pas cette... Non, 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 l'Amérique, c'était des types vraiment qui ressemblaient furieusement à nos grands-parents ou arrière-grands-parents prêts à partir pour la guerre de 14. Ça, c'était un choc culturel. Pourquoi, comment? Alors, la réponse française, elle a été très simple. Elle a été développée, par exemple, dans un journal comme Marianne, qui est un journal très, très anticlérical, que j'aime beaucoup au demeurant, Jean-François Kahn. Enfin, bon, gros titre, une secte baptiste s'est emparée de la Maison-Blanche. Grosso modo, si l'Amérique ne ressemblait pas à l'Amérique que nous voulions voir, si une Amérique se découvrait à nous qui n'était pas celle à laquelle nous pensions, c'est qu'on avait changé l'Amérique. C'est simple, ça s'appelle la théorie du complot, n'est-ce pas ? Quand la réalité ne ressemble pas à ce que vous voulez, c'est qu'il y a des méchants gens qui ont trafiqué la réalité. C'est simple, c'est pas plus difficile que ça. Eh bien non, l'ambition de ce livre, c'est de faire une petite histoire pour montrer que, parce qu'on disait comment le pays de la démocratie est en fait un pays théocratique, n'est-ce pas ? Et on disait, mais oui, mais c'est George Bush Junior, il est terrible, aucun président n'a été comme lui. Faux, tous les présidents ont été comme lui. L'Amérique n'est pas un pays théocratique, elle n'est pas un pays démocratique, c'est la formule que je propose, c'est un pays théodémocratique. À savoir qu'en fait, l'Amérique a toujours vécu sur un mode de civilisation qui nous est inconnu ici en Europe, au moins en Europe occidentale, et qui est le fait que pour les États-Unis, les Lumières et Dieu ne se sont pas opposés. N'est-ce pas ? En France, c'est la Révolution, on décapite le roi, on casse tout dans les églises et on plante le décor de l'être suprême, n'est-ce pas ? Le culte de la raison. Hein ? D'où ensuite cette religion républicaine qui fait que vous avez le Panthéon, n'est-ce pas ? C'est une église à laquelle on a enlevé sa croix. Et les corps des saints qui sont exposés s'appellent Pierre et Marie Curie. Non mais, et vous êtes invité en pèlerinage. D'ailleurs, François Mitterrand n'y avait pas manqué, élu en 1981, de créer une sorte de pèlerinage au Panthéon. C'est pas recréer un pèlerinage au Panthéon. Mais aux États-Unis, il n'y a pas eu de religion républicaine. Pourquoi ? Parce que c'est ça la grande différence de la culture américaine par rapport à la culture européenne. Et là, il y a une véritable fracture. C'est que dans la culture européenne, quelle qu'elle soit, religion veut dire coercition, veut dire répression, veut dire obligation, n'est-ce pas ? Hein ? Dans la culture américaine, la religion, c'est l'émancipation, c'est la libération. Donc on s'émancipe, on se libère grâce à la religion. Et le récit même de l'Amérique, c'est une reproduction, en fait, du schéma biblique de l'Exode, un peuple élu, quasiment élu, dira Lincoln, n'est-ce pas ? Le président Lincoln, le président assassiné. Un peuple quasiment élu qui quitte l'Europe. Et l'Europe, c'est le pays de l'esclavage, c'est l'Égypte. Pourquoi ? Parce que ceux qui quittent l'Europe, ce sont les dissidences protestantes dont ni le pape ne veut, ni les royaumes ne veulent, ni même l'Église d'Angleterre ne veut. Ce sont des extrémistes protestants, les puritains, qui sont persécutés partout. On les met dans des bateaux, et voilà que c'est une histoire comme finalement l'histoire du peuple juif, n'est-ce pas ? Elle va se calquer dessus, en tout cas, comme une histoire biblique. Ces exclus vont considérer qu'ils sont des élus. Ces exclus vont considérer qu'ils sont des élus, et ils vont considérer que, en fait, la manière dont on les a foutus dehors, ben les gens qu'ils ont foutus dehors ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient en fait téléguidés par Dieu. Parce que Dieu avait réservé une terre vierge pour que, enfin, on puisse vivre la religion en toute liberté. Et cette terre vierge, c'est l'Amérique. Et c'est vraiment tous les sermons, n'est-ce pas, des premiers puritains qui arrivent aux États-Unis, dont le premier grand sermon du pasteur qui est d'abord, c'est aussi les textes du Mayflower, de tous ces bateaux qui arrivent les uns après les autres en Nouvelle-Angleterre. Et c'est toujours le même discours, la Jérusalem céleste, la Jérusalem nouvelle nous est apparue, nous sommes un peuple élu, etc. À partir de ce moment-là, l'Amérique va se fonder sur une idée très simple, c'est qu'on ne peut pas faire de politique sans Dieu, parce que il n'y a pas d'histoire qui ne soit pas une histoire sainte, et donc tout peuple pour exister a besoin d'un référent transcendant, n'est-ce pas ? Il a besoin d'un système symbolique qui lui permettent de se vivre en tant que peuple. Vous pouvez pas demander aux gens d'aller mourir à la guerre simplement pour défendre le pouvoir d'achat, vous voyez ? N'est-ce pas ? Donc, ils utilisent au fond le sens même de religion, religere, hein, religion a deux sens, religuérer, lier les gens entre eux, horizontalement. C'est ce qui nous lie, les notions qui nous lient entre nous. C'est pas n'importe quoi, hein. Il y a une expérience religieuse dans le football, dans soutenir son équipe de football et dans aller soutenir sa ville, et avec des rituels, d'ailleurs très clairs, hein, je veux dire, on se barbouille d'une certaine façon, on danse d'une certaine façon, on connaît les cantiques qu'il faut chanter, on sait quand les chanter, il y a des grands prêtres, n'est-ce pas, etc. Et à côté de ça, religuere, qui est le regard qui se tourne vers le ciel et qui crée l'effroi et le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous savez, c'est deux sens de religion, il y a un sens vertical, et, enfin il y a un sens horizontal, être ensemble, et il y a un sens vertical, ce qui fait qu'on a un moment de recul et qu'on cogne sur le sacré et que le sacré nous oblige. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Le sens que l'Amérique va exploiter, c'est le sens très horizontal. Et les Américains vont créer, en fait, dès le départ, vous voyez, il y a le problème de savoir s'ils vont avoir une religion d'État ou pas. On va refuser la notion de religion d'État. Ils ont tous souffert des religions d'État, n'est-ce pas, ce qui arrive. On va refuser la notion de religion d'État. C'est le fameux article de la Constitution qui dit qu'il n'y a pas de religion d'État aux États-Unis et que l'État ne saurait, en fait, être attribué un culte. Il n'y a pas de culte d'État. Mais en revanche, l'Amérique va faire la chose suivante. Tous les cultes sont admis. Tous les cultes sont admis. Tous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, la religion spontanée, l'église spontanée, vaut l'église constituée, vaut l'église historique. C'est-à-dire, pas dans une réunion où vous êtes orthodoxe, où vous représentez 2000 ans d'histoire, les conciles œcuméniques, les pères de l'église, votre parole ne vaut pas mieux que le type qui vient de se constituer en tant qu'évêque de sa propre église, qui vient de fonder, dont il est le seul membre. Et qui ne se réfère même pas à la Bible, mais à un livre sacré qui n'est pas la Bible. C'est pareil. L'État ne tranche pas. Il n'y a pas de valeur dans les croyances. L'État accepte toutes les croyances, pour autant que ces croyances rentrent dans le pacte de la religion civile, à savoir dans le pacte de la religion de l'Amérique, à savoir dans le pacte du patriotisme intégral. Et c'est pour cela que toutes les églises et toutes les religions et toutes les confessions aux États-Unis sont toujours des confessions marquées par une empreinte très américaine, car l'État a constitué ce qu'on peut appeler sa religion à lui, qui s'appelle la religion civile américaine, qui est une religion qui a son credo, c'est la Constitution, c'est les grandes chartes fondamentales des États-Unis, c'est une religion qui a ses monuments, c'est le Capitole, tous les monuments qu'on voit à Washington, et qui sont tous des monuments ecclésiastiques, en quelque sorte, alors que ce sont des monuments, des bâtiments publics. C'est une religion civile qui a ses saints, Washington comparé à Moïse, Lincoln comparé à Jésus-Christ, Martin Luther King, il y en a ses martyrs. C'est une religion qui a ses fêtes, Thanksgiving. C'est le jour où on rend grâce. On rend grâce à qui ce jour-là? Personne ne le sait. On rend grâce à qui on veut ce jour-là. Mais tous les Américains rendent grâce en même temps d'être Américains, vous voyez? C'est ça, la religion civile. Veterans Day, le jour des vétérans, très important, n'est-ce pas, les cimetières militaires, enfin, etc. Et cette religion civile, elle repose sur une simple idée, c'est que aux États-Unis, toutes les religions sont libres de Dieu, et c'est normal, puisqu'on est dans le pays du libéralisme. Donc, en fait, c'est le libre marché, n'est-ce pas, des religions. Vous pouvez inventer vos produits et les proposer. D'ailleurs, on parle aujourd'hui aux États-Unis de « divine supermarket », de supermarché du divin, n'est-ce pas? Toutes les religions sont possibles, dès lors qu'elles sont dans la religion civile, car si toutes les religions sont libres de l'État, lui, l'État ne saurait être libre de Dieu, et c'est pour cela que chaque session du Congrès aux États-Unis s'ouvre par une prière à un Dieu qui n'est le Dieu de personne, au fond, n'est-ce pas? C'est pas le Dieu des catholiques, c'est pas le Dieu des protestants, c'est le Dieu dans lequel peuvent se reconnaître tous les Américains. Alors évidemment, c'est un Dieu qui est très judéo-chrétien, c'est un Dieu qui est très biblique, parce que une fois que vous avez mis tous les chrétiens ensemble, protestants, catholiques, orthodoxes, et les juifs, vous avez à peu près quelque chose comme 82 ou 83% de la population américaine, n'est-ce pas, hein? Donc c'est un Dieu qui ressemble au Dieu du monothéisme. En fait, c'est plutôt le Dieu des déistes. pourrait même dire que c'est un dieu qui ressemble un peu au dieu des francs-maçons, vous voyez. Je veux dire, c'est un dieu impersonnel, un peu comme ça, auquel on peut s'adresser. C'est un dieu qui fonde la nation. C'est un dieu qui est la providence de la nation, il s'occupe d'elle, n'est-ce pas? Et c'est un dieu qui rétribue les bons et qui punit les méchants. En fait, c'est les trois fonctions que Jean-Jacques Rousseau affectait à la religion civile. N'est-ce pas? Bon, ben ça, c'est le dieu des États-Unis, n'est-ce pas? Ce qui fait d'ailleurs que c'est pas du tout George Bush Jr. qui l'a inventé. Lorsque Bill Clinton a voulu se faire pardonner l'affaire Monica Lewinsky, qui était une affaire doublement grave, non seulement parce que il avait eu une aventure avec une stagiaire à la Maison-Blanche, mais surtout parce qu'il avait menti, n'est-ce pas? Et là, le mensonge, c'est vraiment... Bon, là, on est dans une culture protestante, le mensonge, c'est quelque chose de tout à fait impardonnable, n'est-ce pas? Mais il a voulu, à la fin de son mandat, se faire pardonner par la nation entière. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était le jour national de prière, parce qu'il y a un jour national de prière où le président prie à la télé avec tous les Américains. Et évidemment, le prix qui... pris un dieu qui est plutôt minimaliste, parce qu'il faut gêner personne, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc c'est bien ce dieu dont je parlais tout à l'heure. Et ce jour-là, ce jour de prière, Bill Clinton avait invité tous les chefs religieux reconnus aux États-Unis, plus ou moins reconnus, donc vous aviez tous les rabbins, orthodoxes, libéraux, conservateurs, reconstructionnistes, puisqu'il y a quatre écoles au moins aux États-Unis, n'est-ce pas, de judaïsme, vous aviez tous les évêques orthodoxes, les évêques catholiques, les évêques anglicans, qui sont des épiscopaliens, vous aviez les présidents de fédérations protestantes, les baptistes, vous aviez les rabbins, vous aviez les imams, qui sont très minoritaires, on va voir ça tout à l'heure, vous aviez aussi les chefs indiens, qui représentaient les religions des natives, des américains de souche, et ils se sont tous unis, comme ça, tenant par les bras, et ils ont prononcé une absolution du président qui a dit, en récitant les psaumes, qu'il vraiment il avait un cœur brisé, un cœur humilié, et que donc la nation ne saurait le refuser. Ils n'ont pas dit. Et qu'un homme peut repartir dans la vie, et qu'il demandait cette seconde chance. Et alors ils ont tous prié sur lui, en quelque sorte. Vous voyez, ça, c'était pas George Bush, c'était Bill Clinton, qui est un des présidents pourtant les moins marqués par ces affaires religieuses. Cela dit, pendant la dernière campagne, on l'a bien vu dans la dernière campagne, John Kerry parlait comme George W. Bush de Dieu et le rôle que Dieu avait donné à l'Amérique, n'est-ce pas? Puisque la deuxième idée, c'est la deuxième idée qui est importante, c'est que Dieu avait réservé cette terre vierge aux meilleurs chrétiens, en quelque sorte, d'Europe, pour qu'ils puissent fuir Babylone, pour qu'ils puissent fuir l'oppression, afin qu'ils créent un monde nouveau, un monde du bien, un monde fondé sur la vérité et la justice, qui deviendrait un exemple pour le monde entier. C'est ce qu'on appelle la Manifest Destiny, la destinée manifeste des États-Unis, la volonté que Dieu a que les États-Unis rayonnent dans le monde pour donner l'exemple, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que cette Manifest Destiny est imprégnée, elle imprègne le discours américain depuis George Washington, depuis le début, et le mouvement missionnaire aux États-Unis est un mouvement très important depuis les origines, n'est-ce pas? Depuis les origines des États-Unis, les États-Unis envoient des missionnaires dans le monde entier. Et ces missionnaires vous proposent, en kit, je dirais, la Bible, les droits de l'homme et la réduction des impôts, c'est-à-dire une conception libérale de l'économie, vous voyez? Puisqu'on considère qu'une conception libérale de l'économie vous rend plus libéral, humainement parlant, plus tolérant, et que ça amène les droits de l'homme, et qu'en situation des droits de l'homme, la reconnaissance de la Bible fleurit, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est un peu le schéma. Bon, aujourd'hui, les États-Unis ont en permanence 100 à 120 000 missionnaires à travers le monde, n'est-ce pas? 100 à 120 000 missionnaires à travers le monde. On en parlera tout à l'heure. Le troisième point, c'est que c'est aux États-Unis que s'est créé le fondamentalisme, n'est-ce pas? Qui, au départ, ne veut d'ailleurs pas dire du tout ce qu'on croit. Le fondamentalisme, ça veut dire, au contraire, un retour aux fondamentaux de la foi, la Trinité, Jésus crucifié, l'abolition du péché, reconnaissance du péché, donc aussi, etc. C'était un mouvement plutôt traditionnaliste, on dira, que franchement, ce qu'on entend aujourd'hui par fondamentaliste, parce que le terme a été appliqué aux musulmans du Hezbollah à partir des années 1982, par des journalistes américains plutôt anticléricaux, quoi. Donc là, quand on dit fondamentaliste, on pense effectivement au fou de Dieu qui existe dans le monde musulman. Au départ, le mouvement américain, c'est un mouvement plutôt traditionnaliste, protestant, qui est contre le protestantisme libéral. Alors, ce mouvement, il correspond en fait à une vision de l'Amérique qui est typique, puisque l'Amérique s'est recristianisée trois fois, on va dire. Elle s'est recristianisée d'abord après la guerre d'indépendance, avec ce qu'on a appelé le First Awakening, le premier grand réveil, qui a été un mouvement missionnaire de l'intérieur, qui est parti de Nouvelle-Angleterre, et où en fait les Américains ont été sommés de se convertir réellement, personnellement, chacun d'entre eux à Dieu, en créant une relation personnelle à Dieu qui passait par l'évidence du miracle. Ce qu'on appelle les born again, être né une deuxième fois, c'est-à-dire le baptême conscient. Bon, ça commence très tôt, ça marque originellement l'histoire des États-Unis. Puisque pour être un bon Américain, il vous faut être un born again, un né, un nouveau-né une deuxième fois, n'est-ce pas? Puisque vous devez participer d'une réalité politique complètement nouvelle. Il y a eu un deuxième mouvement après Lincoln, après la guerre de sécession, c'est-à-dire après la guerre civile, n'est-ce pas? Puisque la guerre de sécession, c'est une guerre civile, pour recoller les morceaux. Et il y a un mouvement, depuis les années 1910, qui originait, qu'on doit en fait placer dans les années 1910, mais qui a redémarré dans les années 1970 et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Le mouvement qui est né dans les années 1910, c'est donc le mouvement fondamentaliste, qui s'est très vite opposé à la diffusion du darwinisme, qui s'est très vite opposé à la décadence de l'Amérique, prônant les droits civiques, l'égalité des races, les différences de sexualité comme homosexualité, etc. Mais les fondamentalistes, très vite, ont senti qu'ils avaient perdu leur parti, ils se sont repliés sur eux-mêmes, et ils ont forgé une espèce de deuxième Amérique, qui était totalement distincte de la première, et ils voyaient évidemment New York, la Californie, comme finalement le royaume du diable, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et ils se sont aussi beaucoup repliés au centre des États-Unis. Mais de mai 1910 à 1970, ils ont forgé un réseau d'écoles, très important, un réseau de missions très important. À partir des années 50, ils ont adopté les méthodes politiques, porte-à-porte, mailing, enfin, etc. Ils ont bénéficié de l'explosion des radios libres, puisque la plupart des radios libres qui marchent aujourd'hui financièrement aux États-Unis sont des radios fondamentalistes, et ils ont évidemment envahi la télévision et les médias. Et là, on a une combinaison typique, à savoir que les fondamentalistes sont toujours des gens qui adorent la technologie, n'est-ce pas? Et qui adorent les moyens de masse. Ça, c'est un truc typique. D'ailleurs, sur Internet, vous avez des sites pornographiques et des sites fondamentalistes. C'est les sites les plus importants en nombre grandissant, n'est-ce pas? Je veux dire, l'information religieuse et la mauvaise information d'échangisme, c'est les deux grandes choses qui occupent l'esprit, n'est-ce pas? Une polarisation énorme. Mais à partir des années 70, eux qui avaient décidé de traiter la mauvaise Amérique avec indifférence, ils se sont rendus compte que cette mauvaise Amérique était en train de changer l'Amérique. C'est la fameuse époque des lois de tolérance à l'égard de l'avortement, à l'égard de l'homosexualité, etc. Et c'est là où ils sont revenus en force dans le champ politique. Et on peut dire aujourd'hui que les 3 millions de voix qu'a eu George W. Bush lors de sa dernière élection face à John Kerry, voix de plus, n'est-ce pas? Ce sont toutes des voix baptistes fondamentalistes, n'est-ce pas? Des gens qui jusque-là, jusqu'aux années 70, ne votaient pas et qui désormais votent et qui arbitrent le jeu politique aux États-Unis. Donc on peut dire que les États-Unis, c'est le seul pays au monde où le fondamentalisme est réussi parce qu'il s'est dissous dans la démocratie. Le fondamentalisme a réussi aux États-Unis en devenant démocratique, n'est-ce pas? C'est une leçon qu'il faut retenir. Mais alors évidemment, non sans certaines conséquences, à la fois pour la vie intérieure aux États-Unis et pour la vie à l'extérieur. Alors c'est là où je vais aborder le dernier point, puis après on pourra discuter. On décrit souvent les États-Unis comme un pays messianique, n'est-ce pas? En fait, il y a très peu de pays messianiques au monde. Il y a un pays messianique par définition, c'est Israël. Il y a des pays qui ont inventé leur propre messianisme par rapport à ce modèle de l'Israël biblique. La France, la Russie, par exemple, sont des pays qui considèrent que, grosso modo, ils ont quelque chose à apporter au monde, sans lequel le monde ne serait pas le monde, n'est-ce pas? Mais les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Les États-Unis sont moins un pays messianique qu'un pays millénariste. Alors, le millénium, c'est la théorie qu'on trouve dans l'Apocalypse, qui a souvent été développée par les pères de l'Église, qu'un peu avant la fin du monde ou un peu après la fin du monde, il y aura une étape intermédiaire où Jésus, le Christ, viendra régner avec ses justes pendant 1000 ans, n'est-ce pas ? Bon. Les États-Unis se pensent comme ce règne de Dieu sur terre pendant 1000 ans, en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas du tout sortir dans le monde, voyez ? En fait, on fait une réputation d'hégémonie aux États-Unis. Les États-Unis veulent stériliser le monde qui est alentour de manière à ce que ce monde qu'ils jugent maléfique n'infiltre pas, en quelque sorte, le bon territoire des États-Unis, n'est-ce pas ? Mais ils n'ont pas du tout envie de, je dirais, de dominer le monde. Ce n'est pas un désir de domination comme ça. Ils ne sortent, encore une fois, qu'à regret. Ça s'est souvent vu, Deuxième Guerre mondiale, même là, l'Afghanistan, enfin, etc. Puisque le monde extérieur est un monde mauvais. Et on ne s'en occupe que pour garantir l'étanchéité des États-Unis à ce caractère maléfique du reste du monde. C'est une parenthèse. L'Empire britannique a été un véritable empire, parce que dans les années 20, où que vous alliez dans le monde, il y avait toujours un Britannique un peu cinglé qui était tombé redingue, amoureux de l'endroit où on l'avait envoyé, et au lieu de rentrer, il y était resté, n'est-ce pas ? Hein ? C'est pas du tout le cas des Américains, ils ne restent nulle part. Ça ne les intéresse pas, ils veulent toujours rentrer, n'est-ce pas ? Donc pour dire que c'est pas une logique impériale si simple, quoi. Alors, millénariste, mais le millénarisme en a pris un coup terrible avec le 11 septembre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre ? C'est que le territoire donné par Dieu a été frappé par des gens qui se revendiquaient de Dieu. Comment on fait dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on retourne au Deutéronome, qui est le vrai livre, en fait, fondateur des États-Unis, parce que la Bible américaine, c'est plus une Bible de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Au moins pour ce qui est de la vision de l'histoire. C'est que lorsqu'on conteste que Dieu soit votre allié, vous retournez sur le terrain de bataille pour prouver que Dieu est avec vous. Ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ça ne suffisait pas. Ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils aimeraient peut-être faire demain en Iran, s'ils en avaient les moyens militaires. Ils ne les ont pas. C'est une course perpétuelle maintenant. C'est vrai, c'est comme quand vous avez acheté une jolie robe et qu'elle a été... elle est non pas, comment on dit, pas éraflée, mais... elle a un trou d'un coup, hein, vous l'avez ouverte, n'est-ce pas ? Vous avez ouvert un joli tissu, vous allez le repriser, et après vous allez sans cesse repriser la reprisure pour faire en sorte que la reprisure ne se voit pas, parce que vous aimeriez revenir au moment où le tissu était intact. Mais c'est fini, le tissu n'est pas intact, il ne sera plus jamais intact. Le cataclysme du 11 septembre, c'est cette difficulté dans la conscience américaine de l'irréparable. Le sanctuaire a été touché. Le sanctuaire immaculé a été frappé. Tout redevient possible. Tout redevient possible. C'est comme à la roulette, on rejoue tout. Et les États-Unis sont en train de rejouer complètement leur histoire. La meilleure preuve pour moi de cela, ça vous semblait une preuve infime, c'est que comment est-ce qu'ils ont appelé l'endroit où les tours sont tombées ? Ground Zero. Niveau zéro, n'est-ce pas ? C'était retour au niveau zéro de l'histoire américaine. Comme si l'histoire américaine avait été annulée, en quelque sorte. Donc, Ground Zero, face à ce Ground Zero, on s'aperçoit que l'Amérique observe deux grandes tentations, et j'arrive à nous. La première, c'est que l'Amérique, donc, c'est un pays où 92% des gens croient en Dieu, 87% des gens déclarent parler à Dieu quotidiennement. 75% des gens croient aux guérisons miraculeuses, enfin, etc. Non, c'est un pays de croyance, n'est-ce pas ? Bon, aujourd'hui, l'Amérique, en fait, se caractérise par l'essor de l'évangélisme et du pentecôtisme, qui sont, en fait, deux traditions protestantes tardives, particulièrement américaines, qui sont nées aux États-Unis, qui représentent l'essence de l'Amérique, mais qui sont aujourd'hui des tendances protestantes hégémoniques aux États-Unis, qui ont pris tout le pouvoir aux États-Unis, quand c'est pas seulement qu'elles ont le plus de gens, c'est qu'elles obligent tout le monde à se définir par rapport à elles. Elles sont au départ un peu antagoniques, puisque les évangélistes, en grosso modo, ce sont les baptistes du Sud, ils sont très rigoristes, ils sont très branchés sur péché, rédemption, sauve-toi, et Dieu te sourira, et tu gagneras de l'argent. Hein. C'est le deal calviniste, mais devenu un peu un deal immédiat, hein. C'est la pochette surprise. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus un pays protestant au sens du calvinisme, n'est-ce pas? Depuis longtemps, du puritanisme. Ils ont créé avec l'évangélisme leur propre christianisme de l'efficacité, n'est-ce pas? Et à côté de ça, il y a le pentecôtisme qui, lui, est un mouvement d'effusion. Vous devez rencontrer Dieu, lui parler. C'est de là que vient le mouvement charismatique, pour aller vite. Au départ, les deux mouvements étaient très opposés. Mais par exemple, Billy Graham, qui est le pape des États-Unis, auquel Time Magazine, la grande revue américaine, a consacré pas moins de 5 couvertures ces 50 dernières années, qui est le confesseur de tous les présidents américains depuis Billy Carter, depuis oui, Bill Carter. Non, c'est pas Bill, c'est Jimmy Carter. Depuis Jimmy Carter, qui est le confesseur de tous les présidents américains. Au départ, il était pentecôtiste. Aujourd'hui, il est considéré comme évangéliste. Alors que, vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, vous avez un magma quand même, là. Je suis désolé de le dire, mais qui se caractérise par quoi? Par l'abolition de toute médiation. D'abord le spontanéisme. Le spontanéisme de votre croyance vaut toute l'histoire de l'Église, tous les dogmes, etc. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est que vous croyez vous personnellement et que la manière dont vous croyez vous concerne. Deuxièmement, effacement du médium qui est le prêtre. Il n'y a plus de prêtre. N'est-ce pas? Il n'y a plus de médiateur entre le croyant et Dieu. Il n'y a d'ailleurs plus de médiation, à part la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on la trouve à la radio, à la télévision, autant dire qu'elle est immatérielle, n'est-ce pas? C'est le règne des télé-évangélistes. Bon, il n'y a pas de suivi non plus. Parce que vous pouvez rencontrer Dieu à travers votre télévision en écoutant un émule du Père Jivko venu du Texas, qui vous parle à la télé, vous adhérez. Vous êtes sauvé, voilà, je veux dire, et après, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, effacement des rites, etc. Bon, hein, c'est ce qu'on appelle le christianisme hub and spoke. Le hub and spoke, c'est la nouvelle version des aéroports. Vous avez tous vu ça avec la dérégulation des billets d'avion. Aujourd'hui, vous arrivez dans un terminal, vous repartez d'un autre, votre compagnie d'avion a loué deux bureaux. Dès que vous êtes embarqué, on enlève les placards et c'est une autre compagnie qui vient derrière. Il n'y a plus d'aéroport au sens où c'est un lieu flexible qui, selon le trafic, grandit, grossit, prend un nom, prend un autre nom. Enfin, bon, en fait, ce sont des structures vides qui se remplissent comme elles se remplissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et dont l'identité et l'amplitude varient selon le remplissage. Bon. Hub and Spoke, c'est la nouvelle théorie des églises en Californie où il n'y a plus de credo. Il n'y a plus d'appartenance, vous venez et vous consommez. C'est-à-dire, le pasteur, c'est comme si ici c'était devenu une église auto-instituée. Le père Jivko ne s'appelle plus père d'ailleurs, il s'appelle Jivko, et puis à côté il met surtout PhD, il se fait appeler docteur Jivko, et il donne des sermons, il parle de la vie. D'une manière minimaliste, parce que tous les gens qui passent sont capables d'entrer, de payer pour l'écouter, de repartir en ayant le sentiment d'avoir reçu quelque chose. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, là, c'est l'offre qui, c'est plus. En termes de marché, nous avons des églises d'offres, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire, il y a une offre qui est faite aux gens, et c'est aux gens de correspondre à cette offre, n'est-ce pas? Hein? Bon, là, ce sont des églises de demande, ce sont les croyants qui configurent l'église. Et le discours de l'Église. Donc, cette forme et la force de l'évangélisme avec ces grands thèmes qui sont une sorte un peu de minimalisme dogmatique, mais d'hyperpolitisation du point de vue des mœurs, hein, puisque l'évangélisme ne s'occupe pas de politique, mais il s'occupe que de points précis, avortement, homosexualité, des choses comme ça, enfin, vous voyez, des thèmes de société, quoi, hein. D'où une jonction d'ailleurs avec les catholiques qui est très importante aux États-Unis et qui inquiète beaucoup l'épiscopat catholique et Rome. Donc l'évangélisme travaille de cette façon-là, mais il a imprégné toute la religion aux États-Unis, tout l'univers religieux aux États-Unis, au point qu'aux États-Unis, il n'y a pas simplement une religion civile, mais il y a une religion commune. Tous les espaces religieux se ressemblent. Quand vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas savoir très souvent si vous êtes dans une église orthodoxe, dans un temple juif, dans une synagogue juive, dans un temple protestant. Parce que, et même parfois, il y a quelques signes qui le montrent. Évidemment, quand vous connaissez bien, vous savez où vous êtes. Mais les similitudes de la piété sont devenues telles que les Américains ont eu une seule et même piété, quelle que soit leur confession. Et c'est donc une piété évangéliste et pentecôtiste. Spontanéité, miracle, et marchandisation, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est un des premiers problèmes, et du coup, le pacte est rompu. Du coup, le catholicisme, qui est la deuxième confession aux États-Unis en nombre. C'est-à-dire, c'est la deuxième... Non, c'est même la première confession en nombre. Hein. Puisque, évidemment, il y a beaucoup plus de protestants que de catholiques, mais les églises protestantes sont toutes disséminées, donc il n'y a pas une seule église protestante qui soit aussi nombreuse que l'église catholique. Donc c'est la première église en nombre. Mais les catholiques sont très mal vus, ils sont vus depuis toujours très mal aux États-Unis, puisque ce sont des papistes, ils prennent leurs ordres ailleurs, ils n'acceptent pas le deal du nouveau monde, n'est-ce pas, où tout doit être nouveau. En plus, ce sont des populations d'immigration irlandais, polonais, italiens, enfin, etc., qui sont assez mal vus aux États-Unis par le côté WASP, le côté White Anglo-Saxon Protestant, protestant blanc et anglo-saxon, par l'establishment. Et donc, on a vu ressurgir récemment, à l'occasion des affaires de pédophilie qui ont frappé l'Église catholique, des titres sanglants, par exemple de Time Magazine. L'Église catholique peut-elle se sauver elle-même ? N'est-ce pas ? Et donc, il y a un anticatholicisme profond. L'orthodoxie, elle aussi, est assez mal vue pour des raisons historiques. C'est d'abord, il y a eu, dans les années 70, une surenchère des milieux orthodoxes russes sur les questions de communisme. Et lorsqu'en fait... l'Amérique est rentrée dans la détente avec l'URSS de Brechnev. Lorsque ensuite l'Amérique s'est retirée du Vietnam, les orthodoxes étaient très virulents, n'est-ce pas ? Considérant ces retraits comme des lâchetés. Et de notre côté, tous les orthodoxes liés à l'affaire du Proche-Orient ont des positions plutôt pro-palestiniennes dans un monde américain qui est très officiellement lié à Israël. C'est un deuxième mauvais point. Le troisième mauvais point, évidemment, c'est l'affaire du Kosovo, l'affaire de Serbie, du Kosovo, de la Yougoslavie, où on a vu les Américains prendre le leadership, en quelque sorte, d'une mise au pas, n'est-ce pas, de la Serbie. Les orthodoxes ont été très solidaires et ont réagi contre, mais par là même, ils se sont mis hors du jeu américain, en quelque sorte. Hein, vous voyez ? Donc, pour toutes ces raisons, l'orthodoxie est mal perçue, elle reste très divisée, encore plus divisée qu'ici. Donc elle a encore plus de mal à se faire entendre, bien qu'il soit aux États-Unis qui a eu le plus beau projet au XXe siècle de pensée et d'action orthodoxe à travers l'aventure de l'OCA, de l'Orthodox Church of America, de l'Église orthodoxe d'Amérique, qu'avaient provoqué les pères Alexandre Schmemann et Jean Meyendorff, partis de France pour vivre cette aventure aux États-Unis dans un monde ouvert, d'essayer de créer une Église orthodoxe du nouveau monde, en quelque sorte, prenant en compte l'effet... le fait de l'immigration, du basculement des orthodoxes vers d'autres pays, n'est-ce pas ? Le judaïsme va très très mal aux États-Unis, il est très partagé, mais il est surtout exsangue spirituellement. Il subit une forte dissolution en raison du nombre très fort de mariages mixtes, puisque un mariage sur deux aux États-Unis juif est un mariage mixte, et simplement un enfant sur quatre issu des mariages que contractent les juifs sera éduqué dans la tradition juive. C'est une forme de réussite aussi, je dirais, de l'Amérique que de dissoudre comme ça des identités très très fortes, n'est-ce pas ? Puisque s'il y a une identité qui est persistante à travers l'histoire, c'est quand même l'identité juive. Et on voit qu'aujourd'hui, l'identité juive aux États-Unis se résume souvent, en fait, au souvenir de l'Holocauste, de la Shoah, à la mémoire de la Shoah, et à l'attachement à Israël, ce qui, dans les deux cas, parle soit d'un passé, évidemment, passé central, soit d'une extériorité Israël, mais pour ce qui est du judaïsme américain lui-même, on a du mal à avoir une forme de vitalité. Et enfin, dernier point, l'islam, qui a toujours été ultra-minoritaire aux États-Unis en raison des lois d'immigration qui ont fait en sorte que l'immigration musulmane soit extrêmement restreinte, l'islam, aujourd'hui, les musulmans représentent 1% des États-Unis. 1% de la population américaine, ce qui n'est rien par rapport aux proportions qu'on connaît en Europe occidentale. Et en plus, c'est un islam très divisé qui a son propre islam américain, puisqu'il y a un islam noir américain, The Nation of Islam, qui n'est pas reconnu comme musulman par l'islam, mais qui est une sorte de mouvement noir protestataire largement antisémite, fondée sur des idées diététiques, c'est toujours l'Amérique, hein, le bazar religieux, fondée sur des idées diététiques, puisque les Noirs souffrent beaucoup aux États-Unis, évidemment, étant très défavorisés économiquement, ce sont eux les cibles de la junk food, de la. De la malbouffe, des McDo, etc. Et donc, le noir obèse, c'est une constante, n'est-ce pas, de la culture américaine. Et le noir de The Nation of Islam, c'est au contraire un noir toujours svelte, n'est-ce pas, parce que la diététique est au centre de la nouvelle révélation qui a été faite par un noir américain à Détroit en 1922. Bon, ou 23, enfin bon. Donc, eux, c'est un mouvement très marginal, n'est-ce pas? Mais en fait, on voit que l'islam d'importation est assez restreint, puisque les immigrations des pays musulmans typiques, arabo-musulmans ou asiato-musulmans, est très restreinte, et qu'il y a en fait un mouvement afro-américain-musulman qui, lui, est tenu à suspicion, et en suspicion, on le comprend, puisque c'est une espèce de mouvement révolutionnaire qui prône d'ailleurs la séparation des blancs et des noirs, la redistribution du territoire, une sorte d'apartheid à l'envers, donc. Donc cet islam était mal vu, il est évidemment encore plus mal vu depuis le 11 septembre. Le président Bush n'arrête pas de répéter que les musulmans sont des Américains à part entière. Il n'empêche que 44% des Américains, selon un grand sondage annuel qui est fait très sérieux par une très très grande université de la côte Est, 44% des Américains considèrent qu'il faudrait parquer tous les musulmans d'Amérique, y compris les citoyens, dans des camps spéciaux de surveillance, comme on avait fait pour les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. Un Américain sur deux, quand même, ça veut dire. Hein. Et que, il y a eu un grand scandale aux États-Unis, puisqu'on a rendu compte que le FBI avait reçu l'ordre du gouvernement de tester le niveau de radioactivité de toutes les mosquées des États-Unis, pour voir si elle ne tenait pas des armes nucléaires miniatures. Donc à part ça, tous les musulmans citoyens américains sont des citoyens comme les autres, ils sont juste un peu plus égaux que les autres, on va dire. Et donc c'est un véritable problème aussi, cette intégration de l'islam, n'est-ce pas? J'arrive à. Enfin, bon. Donc le système ne marche plus, quoi, je veux dire. Dès qu'en fait on sort des frontières du protestantisme majoritaire, la religion civile a du mal, quand même, vous voyez ce que je veux dire, à intégrer les autres, ou alors elle leur demande comme abandon, comme prix de leur adhésion, un abandon extrêmement fort de leur identité, n'est-ce pas? Vous voyez, hein? Je dis, il y a 600 mosquées aux États-Unis. Il y a 600 mosquées aux États-Unis. C'est à comparer avec le fait que l'Église orthodoxe d'Amérique, sur le territoire des États-Unis, compte 700 paroisses. Que le diocèse serbe aux États-Unis doit compter 100 à 150 paroisses. Le seul diocèse serbe, hein, je veux dire, qui par rapport à l'islam est peanuts. Je veux dire, c'est qu'une fraction du christianisme qui est une même fraction de l'orthodoxie, vous voyez. Le diocèse antiochien compte 800 paroisses. Les Grecs ont 800 paroisses. Donc le seul diocèse grec d'Amérique a plus de paroisses que tous les musulmans d'Amérique n'ont de mosquées. C'est à comparer avec vraisemblablement les 2500 mosquées et lieux de culte que compte la France, par exemple. Donc voilà où on en est. Non, mais c'est juste pour donner une idée de. Bon, mais là, il y a certainement un fort blocage américain désormais. Le rêve américain ne fonctionne plus pour tout le monde, puisque le rêve de l'Amérique, c'est de reconstituer l'humanité entière sur le territoire américain, avec des gens régénérés qui voyaient leur religion de façon différente. Il semble que là, sur la question de l'islam, l'Amérique bute, n'est-ce pas? Et puis, dernier point, donc j'avais dit. Une réalité missionnaire, l'évangélisme et le pentecôtisme sont partis. L'évangélisme et le pentecôtisme sont partis à la conquête du monde. Le pentecôtisme est la confession chrétienne qui a le plus grandi ces 50 dernières années. On compte aujourd'hui qu'elle a à peu près 120 millions d'affiliés à travers le monde, à comparer avec les 180 millions d'orthodoxes. En fait, l'évangélo-pentecôtisme, c'est une hérésie, hein, ce que je dis, parce que les évangélistes et pentecôtistes étaient là et hurleraient en disant qu'ils n'ont rien à voir, mais bon, c'est quand même la même démarche. Taille des croupières aujourd'hui dans le monde entier, à toutes les religions. Évidemment, ils sont dans un face-à-face radical avec l'islam, puisque Pat Robertson et sa chaîne fondamentaliste ont lancé un satellite qui s'appelle Amos, comme le prophète de l'Ancien Testament, qui est censé apporter le Christ à tous les musulmans et à tous les confucianistes et à tous les bouddhistes d'Asie. Le programme étant de faire, dans les 15 ans qui viennent, de donner 500 millions d'êtres humains au Christ. D'apporter 500 millions d'êtres humains au Christ. Mais ce mouvement est partout. Il ne taille pas que des croupières à l'islam, etc., puisqu'il est dans un rapport de face-à-face brutal avec l'islam, et les évangélistes sont les seuls, d'ailleurs, à vous attacher de convertir les musulmans. C'est le problème qu'ils ont eu, ils viennent se faire expulser d'Algérie pour ça, puisqu'en plus, ils recrutaient beaucoup en pays berbère. Les berbères, il y a une relation ancestralement d'opposition, n'est-ce pas, à la côte qui est arabe, l'arabe étant l'envahisseur, l'islam étant la religion de l'envahisseur. Les berbères se sont précipités pour se convertir à l'évangélisme. Ils voulaient vraisemblablement, certains d'entre eux étaient prêts à se convertir au catholicisme dans les années de colonisation. Mais là, c'est l'État français qui les empêchait de devenir catholiques, puisque l'État français, anticlérical et franc-maçon, préférait les voir musulmans que catholiques, n'est-ce pas ? Donc, par rapport à ça, donc, ils sont présents partout, mais ils taillent des croupières aussi aux autres confessions chrétiennes. Ils taillent des croupières en Russie, aux orthodoxes, à Moscou. Ils taillent des croupières aux catholiques, au Brésil. Le Brésil, c'est un pays qui était à 80% catholique. Il n'est plus qu'à 70% catholique. En 15 ans, les évangélistes ont pris 10% de la population, et c'était 10% de la population qui étaient tous des catholiques, n'est-ce pas ? Et ils sont à nos portes. Aujourd'hui, si vous prenez un taxi, ce taxi vient du monde africain ou des Antilles, des Caraïbes, il y a de fortes chances pour qu'il profite de votre gentil sourire d'orthodoxe pour vous annoncer Jésus, puisque, en fait, on l'a vu récemment avec la venue d'un grand pentecôtiste guérisseur qui fait des guérisons à l'échelle collective et mondiale. Il n'y avait que 6 ou 7 000 personnes pour le recevoir. Que 6 à 7 000 personnes, parce que d'habitude, c'est 50 000, 100 000 personnes, n'est-ce pas ? C'est une espèce de business familial qu'il a, mais il fait des guérisons collectives, n'est-ce pas ? Et c'était le mois dernier à Paris. Il y avait 5, 6, 7 000 personnes qui sont des gens souvent issus des immigrations d'Afrique noire, encore une fois, et du monde entier, n'est-ce pas ? Avec souvent une forte opposition à prévoir dans nos banlieues entre ce mouvement évangélique et les mouvements fondamentalistes musulmans. En sachant que l'évangélisme est la religion qui progresse le plus en France, c'est pas du tout l'islam. Hein. C'est la nouveauté du paysage religieux français, c'est l'évangélisme. Puisque aujourd'hui, il y a à peu près, on compte 700 000 protestants en France, dont 350 000 évangéliques. Les évangéliques sont d'ores et déjà la moitié du protestantisme, et surtout, si on regarde en termes d'action, d'ouverture de temples, etc., alors là, ils sont à 120% le protestantisme d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Hein ? Et donc, on a ça, bon, et ça, c'est un véritable problème, puisque le problème qu'on a, c'est que si chaque grand pôle culturel a produit sa propre église, son propre christianisme, le problème, c'est que l'éparpillement des évangélistes ne laisse pas voir une culture, une civilisation poindre avec eux. Les évangélistes ne feront pas de cathédrale, n'est-ce pas ? Les évangélistes ne créeront pas une chrétienté orthodoxe, ou une chrétienté latine, ou une chrétienté protestante. Les évangélistes sont dans la mondialisation, dans le flux, dans le virtuel. Et donc là, il y a un véritable problème d'éparpillement de cette culture chrétienne. Et puis, dernier point aussi, c'est que leur force historique, puisqu'ils sont intimement liés à l'histoire américaine, fait qu'aujourd'hui, ils montrent un visage du christianisme qui, pour moi, selon moi, ne peut être que dérangeant pour nous. D'abord parce que ce visage du christianisme qu'ils montrent est un visage arrogant, agressif, militant, parfois militaire, et que ne serait-ce que ce visage-là, d'ailleurs, qui s'adresse à nous aussi, puisque nous sommes leurs adhérents potentiels, comme eux-mêmes le conçoivent, puisque nous ne sommes pas des born again, tant que nous ne serons pas, n'est-ce pas, nous pourrons être qu'avec eux. Mais ce visage, en plus, est très dérangeant quand on sait que nous avons des églises au Liban, en Égypte, en Syrie, en Irak, En Turquie, dans les Balkans, où parfois il y a des mixités avec des populations musulmanes, pendant le cas de la Macédoine, qui n'est pas un cas anodin ici, n'est-ce pas, enfin, etc., où cette conception d'un christianisme intimement lié aux intérêts américains, alors que nos frères chrétiens de ces régions-là ne se représentent pas l'Amérique, il y a là une confusion qui me semble extrêmement grave, dangereuse, et c'est une confusion qu'il faut lever à tout prix plutôt que de se laisser embarquer dans une forme de croisade qui n'en est même pas une, quoi, n'est-ce pas? Pour la sauvegarde de notre propre histoire, notre propre identité et notre propre conception d'un christianisme où le personnage central n'est pas Superman, mais le Dieu homme crucifié, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, on peut avoir quelques questions. Voilà, mais bon, je me sens un peu confus de venir parler de ce livre, parce que c'était peut-être pas ça forcément le plus important dans la vie d'une paroisse et dans la vie d'un orthodoxe. Mais c'est pour ça que je me suis. Mais je pense quand même que ce sont des choses qui nous occupent aussi, et que la vigueur que ces évangélistes semblent. Dont ils semblent témoigner, elle n'est pour nous qu'une incitation à mieux faire, mais pas forcément à faire comme eux. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Voilà, merci Jean, parce que nous sommes une petite paroisse qu'on ne peut pas réfléchir, n'est-ce
Non!
pas?
C'est pas ce que je
C'est à
voulais
cause de
dire.
ça,
Non, je
c'est
veux
ça
dire, il
que
y a
je
des
veux
choses
dire.
peut-être plus urgentes, plus essentielles, c'est ça.
Oui, tout à fait, oui,
Non, c'est ça que je
tout
veux
à fait,
dire.
mais quand même, moi je voulais quand même signaler donc la parution de ce livre, donc ce livre en fait partie d'une enquête, ce premier volet seulement, d'une enquête théologique et politique. Donc je cite sous le métamorphose de l'idée moderne de Dieu qui interrogera les destinées du jacobinisme, du slavophilisme, du sionisme et de l'islamisme. Donc c'est le premier livre. Il y aura encore des livres. Et c'est important parce qu'en fait le modèle américain, enfin que tu nous as décrit tout à l'heure, il est à la fois dérangeant, je te cite, pour nous les orthodoxes, mais aussi pour nous les comment dirais-je ici, les gens que nous habitons ici en France, que nous avons acquis. Pour l'instant, c'est ce modèle républicain où l'Église est séparée de l'État. Pour nous, c'est impensable tout ce que tu nous décris. On est toujours surpris, qu'on soit orthodoxe ou non. Et à ce titre, donc, il faut, avec ta permission, je dirais aussi que tu fais partie de la commission Machelon. Vous avez entendu parler d'une commission qui était dotée d'une mission de réfléchir sur donc la loi 1905, parce que la question se pose aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on fait à cause de la présence de l'islam et les questions qui vont avec, même l'État républicain français a amené et obligé de réfléchir et de revoir ce modèle. Voilà.
Oui. Alors, la commission Machelon, en fait, c'était une commission qui a été voulue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, pour répondre à un besoin très simple. C'est que, par exemple, la loi de 1905, qui est présentée comme une loi immuable, n'est-ce pas, en France, comme une sorte de table de la loi descendue du Sinaï, elle est contradictoire. Elle est désormais contradictoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour revenir au principe de cette commission, il ne s'agissait pas de porter atteinte à la laïcité, n'est-ce pas? Si la laïcité, ça veut dire deux choses. À savoir que l'État envisage chaque personne comme un citoyen qui a les mêmes droits, et ce citoyen peut s'adresser à l'État directement sans passer par le biais de la communauté à laquelle il appartient. Donc, grosso modo, moi, Jean-François Colosimo, je peux m'adresser à l'État sans passer par l'évêque orthodoxe, qui est censé. Hein, c'est ça le communautarisme, n'est-ce pas? On ne parle pas des problèmes de communauté. La France est un pays où il y a toujours eu des communautés. Le communautarisme, c'est lorsque l'appartenance qu'on a à une communauté précise crée notre lien à l'État et au reste de la nation. C'est ça la définition du communautarisme. Alors ça, tout le monde est contre, n'est-ce pas? Ça, je veux dire, et la Commission ne s'attaque pas à ça. C'est-à-dire, la Commission ne souhaite pas que vous soyez représenté par votre évêque orthodoxe qui décidera si vous devez tous partir vivre en Corse ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, non, mais je caricature parce que c'était ça dans l'Empire ottoman. Hein. Bon. Deuxièmement, le deuxième principe qui va avec la laïcité, c'est que non seulement donc vous êtes un individu, juridiquement, c'est vous qui êtes responsable de vous-même et personne d'autre. Aucune communauté à laquelle vous appartenez ne peut dire tais-toi, je parle pour toi. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, évidemment, c'est d'éviter les guerres de religion Et donc, on définit un espace public, une espèce de bac à sable, et on dit à tous les enfants que vous êtes qui viennent jouer dans le bac à sable, tu laisses tes insignes religieux dehors. Parce que sinon, ça finit toujours en chamaillerie. En France, on le sait, puisqu'on a eu les premières guerres de religion au monde, n'est-ce pas ? Hein ? Bon, ça, c'est le deuxième principe de la laïcité. De son grosso modo, ces principes-là, personne ne veut... Alors, l'espace public, ça concerne aussi l'école, qui est effectivement lieu de rencontre de tout le monde sur un pied d'égalité, où les croyances ne peuvent pas influencer l'enseignement, etc. Bon, donc... Bon, moi, je dis, j'ai aucun problème avec cette laïcité-là. Je tiens à dire, d'ailleurs, qu'en tant qu'orthodoxe, on en profite. Hein. Je veux dire, si on était dans une France monolithique... où il y avait une religion d'État qui serait par exemple le catholicisme, déjà qu'en tant que chrétiens, nous sommes de facto extrêmement dépendants de l'Église catholique, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes assimilés à elle, au mieux, dans le regard de la nation. Si en plus tout ça a été légalisé, etc., ça voudrait dire que s'il fallait demander à l'évêque catholique du lieu si on peut ouvrir une paroisse à Chaville, ça se passerait peut-être bien, ça se passerait peut-être mal. Je dis que le fait qu'on puisse l'ouvrir... sur un terrain de pure légalité où toute association a le droit de se constituer comme elle le veut, c'est un avantage, n'est-ce pas ? Bon, cela dit, la laïcité à la française, il ne faut pas l'exagérer. Le président de la République, chaque année, reçoit les vœux des chefs religieux, reconnus comme tels par l'État français, n'est-ce pas ? Depuis peu, l'évêque orthodoxe, parce qu'avant, il ne voulait pas inviter d'orthodoxe, parce qu'il ne savait pas lequel inviter, et ils avaient peur qu'en invitant un, il en ait huit. Il ne savait pas lequel inviter d'évêque, et c'est ça le problème du protocole de l'Élysée. Il ne savait pas lequel inviter d'évêque orthodoxe qui représentait les autres. Maintenant, il y a une assemblée des évêques avec un président, donc ils avaient, parce que je veux dire, ils n'invitent pas 10 rabbins, quoi, ils n'avaient pas invité 10 évêques orthodoxes, donc on n'invite personne, comme ça on se froisse avec personne. Bon, c'est un pays, la France, qui est laïque, mais dans lequel 35 à 40% des besoins scolaires sont fournis par l'Église, par les réseaux de l'Église catholique, 30% au moins. 30 à 30%, à peu près un tiers probablement des besoins sanitaires, hospitaliers, particulièrement les maternités, sont des endroits. Et si on enlevait le réseau, les catholiques dans le réseau associatif, qui apporte toutes sortes d'aides et d'assistances matérielles, éducatives, etc., dans les quartiers, je veux dire, le pays irait très mal, il faudrait faire appel à l'armée, quoi. Donc c'est un pays qui reconnaît ça, évidemment, aussi. Enfin, la France est un pays laïque, mais que dès que ça flambe dans une banlieue, le maire se précipite pour demander aux rabbins, et aux prêtres et à l'imam du coin de venir pacifier les jeunes, ce que la police n'arrive pas à faire. Donc c'est un pays laïque, mais il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire les principes constitutionnels sont laïques dans la pratique. Je veux dire, on dit, n'est-ce pas, que l'État ne connaît aucune religion. Il en connaît aucune parce qu'il, enfin, il en connaît aucune en particulier parce qu'il les connaît toutes, quoi. Enfin, je veux dire. Il y a au ministère de l'Intérieur un bureau central des cultes, c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur est aussi ministre de la religion en France, ministre des cultes. Il y a un bureau central. Ce bureau central, il a un responsable, un préfet, je peux vous assurer, je le connais, qu'il passe, lui, sa vie en permanence à régler des problèmes, hein. À régler des problèmes en permanence. Bon, donc il est évident que par rapport à ça, le paysage a changé et que donc il y avait certaines dispositions de la loi de 1905 qui étaient contradictoires. Bah, d'abord parce que bon, alors, donc la législation sur les cultes en France, c'est pas que la loi de 1905 qui tient sur trois feuillets. Hein. C'est un bouquin comme ça. Je te passerai parce que toi qui es dans toutes ces questions, tu verras que le droit, ces questions-là, est pire encore que le droit canonique. Donc c'est un volume comme ça et ce volume était arrivé, si vous voulez, enfin, certaines dispositions étaient complètement absurdes. Bon, par exemple, un des grands principes de la laïcité tel que... Alors, bon. Dernier point. La laïcité, en 1905, c'était quoi ? C'était la liberté de ne pas croire. C'est-à-dire que l'État, face à une Église catholique hyper puissante, qui était la seule vraie religion de ce pays, bras de fer entre l'État et l'Église, l'État a choisi de faire en sorte que les gens qui ne veulent pas croire pouvaient ne pas croire. Aujourd'hui, la laïcité, c'est la liberté de croire. Et on compte sur l'État pour aménager cette liberté de croire et pour donner un coup de main. Donc oui, c'est plus du tout la même histoire. Et puis dernier point, il est évident aussi que le paysage ne correspond plus à ça. L'Église catholique reste effectivement extrêmement majoritaire en France, n'est-ce pas ? La messe du dimanche matin, c'est C'est l'activité collective la plus forte de France. Il n'y a pas une seule journée du championnat de foot qui égale le nombre de gens présents à l'église le dimanche matin dans l'église catholique, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus l'église dominatrice, en quelque sorte, que percevaient les anticléricaux, laïcards. Je veux dire, c'est une église qui est assez contente de son expérience laïque. Elle a dégonflé, c'est vrai, en nombre. Mais elle se sent mieux, elle se sent rajeunie souvent, elle se sent plus proche, elle a moins de fidèles, mais elle a des fidèles qui sont meilleurs, qui savent pourquoi ils sont fidèles, qui sont là parce qu'ils le veulent, qui sont mieux éduqués. Alors évidemment, elle a perdu la dimension sociologique de la religion avec la sécularisation, mais elle a gagné en vigueur de foi et de croyance. Elle a gagné en vigueur de foi. Donc les évêques catholiques, même les moins laïcistes, comme le cardinal Lustiger, étaient plutôt contents de l'expérience laïque. Ils ne voudraient pas redevenir une église d'État, c'est sûr. Ils ont trouvé qu'ils sont plus près du Christ, comme ça, vous voyez. Mais rien, le paysage a changé, parce que non seulement cette église est plus dominante, mais il y a des tas de religions nouvelles en France. Nous, par exemple. Et nous, alors on est assimilés les orthodoxes. Il faut savoir qu'il y a autant d'Arméniens que d'orthodoxes en France. Hein. Il y a 300 000 Arméniens en France, qui ne sont toujours pas constitués en Église arménienne de France. Hein. C'est des paroisses. Ils n'ont même pas une éparchie.
Il y a une paroisse à Chaville.
Oui, je sais, c'est pour ça que j'en ai. Bon, il y a évidemment les maronites, les coptes. Maintenant, dans le métro, parfois, vous voyez des types qui ont un type oriental prononcé. Ils lisent un livre, comme les musulmans lisent le Coran le matin, mais vous regardez le livre, il y a des images saintes du Christ. Ce sont des coptes, n'est-ce pas? Très pieux. Bon, il y a tout ça. Bon, il y a les évangélistes. Il y a le fait que le judaïsme a complètement changé en France avec l'arrivée des Séfarades en 1962, des Juifs d'Afrique du Nord, qui ont complètement bouleversé. Le judaïsme français, c'était un judaïsme ashkénaze, alsacien, on va dire. L'image type, ça serait Robert Badinter, avocat, président du Conseil constitutionnel, enfin, etc. Puis est arrivé d'un coup le judaïsme séfarade, la vérité sigement, enfin, le sentir, je caricature volontiers, mais c'est pour dire que c'était un bouleversement au sein même du judaïsme. Dans les années 70, au consistoire, on continuait à appeler un mariage entre une séfarade et entre une séfarade et une ashkénaze, on continuait à appeler ça un mariage mixte. Ouais, remarquez chez nous, des fois, même un mariage entre une Russe et une Grecque, entre un Russe et une Grecque, ça pourrait être appelé certainement, je ne sais pas comment, ou mais bon, vraiment un mariage mixte aux yeux des prêtres. Donc ce paysage a complètement changé, et il fallait changer la loi. Pourquoi il fallait changer la loi? Par exemple, l'article 2 de la loi 1905 stipule que l'État ne subventionne aucun culte. N'est-ce pas? C'est complètement faux. L'État n'arrête pas de subventionner les cultes. L'État subventionne indirectement les cultes de plusieurs façons. D'abord, il y a cette fameuse caisse auxquelles contribuent les prêtres, qui est déficitaire d'un milliard de centimes, c'est rien, hein. Un milliard de centimes de francs, hein, d'anciens francs, hein, je veux dire. Ce qui est rien par rapport au déficit de l'État. Donc l'État subventionne la sécurité sociale des prêtres catholiques, auxquels les prêtres catholiques ont associé souvent les prêtres orthodoxes, lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes une sécurité sociale. L'État a subventionné la cathédrale d'Évry à la demande de François Mitterrand, opération réalisée par Jack Lang, pour dire qu'on n'était pas au cœur de la droite vendéenne, là, vous voyez ce que je veux dire? Encore qu'avec François Mitterrand. Mais comment on a fait? Ben, on a dit, on finance pas, l'État ne peut pas subventionner une cathédrale, monsieur le Président. Il a dit, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose autour si ils vont faire un musée des arts sacrés. Alors il a dit, bon, hein? Comment? Et on a fait un musée, et dans le musée, on a fait une cathédrale. Et donc, en fait, on a subventionné la cathédrale, mais l'État a subventionné le musée. Pareil, si vous voulez être subventionné, faites une école autour de la paroisse, et vous aurez ensuite une paroisse gratte-ciel. Donc, il fallait harmoniser tout ça parce qu'on était arrivé à un point vraiment très désagréable d'hypocrisie sur ce point-là. Il y avait un autre problème, c'est les problèmes de carré confessionnel. Il y a les juifs et les musulmans demande des carrés confessionnels, il faut qu'ils soient enterrés ensemble, disait-il. Mais l'État ne peut pas admettre de mettre une telle loi. On ne peut pas mentionner dans la loi les carrés confessionnels. C'est-à-dire que dans ce cas, l'État commence à reconnaître des cultes, n'est-ce pas ? Hein, et à se mêler de la vie des cultes. Bon, il fallait le faire, en plus qu'il y a des problèmes parfois graves. Par exemple, il y a un fameux arrêté à Grenoble dans les années 60-70. Je ne sais plus, enfin, je caricature, mais enfin, une femme non-juive épouse un juif. Ce juif-là meurt tôt, malheureusement. Il est enterré dans le carré juif. Ils ont des enfants ensemble. La femme meurt 25 ans après. Elle va pour être enterrée dans le carré juif. Elle n'est pas juive. Le rabbin dit non. Que dit le maire ? Non, mais voilà. Ça, c'est... En fait, c'est ça, la laïcité à l'épreuve du... Est-ce que les menus dits diététiques, par exemple, l'absence de porc de plus en plus fréquente dans les cantines, est une obligation ? On peut prendre le problème à l'envers. Si demain, un proviseur un peu provoque décide qu'il n'y a plus que du porc à la cantine, incidemment, et comment on prend les revendications de ceux qui ne mangent pas de porc et qui, alors généralement, on fait en sorte qu'il y ait toujours autre chose. Mais on pourrait, enfin, qu'a fait l'État ? Vous voyez, ce sont des questions comme ça, qui relèvent souvent des pouvoirs de police, des pouvoirs de subvention. Alors, est-ce que, bon, enfin, grosso modo, le problème qu'il y a derrière aussi, est-ce qu'on a envie qu'il y ait des mosquées qui fleurissent dans les caves ? On ne sait pas ce qui s'y passe. Ou quand elles sortent des caves, elles sont payées par l'Arabie Saoudite ? Ou est-ce qu'on va construire des mosquées, ce qui est normal, puisqu'on a une population musulmane de citoyens français aujourd'hui très importante, qui sont en retard sur leur patrimoine immobilier, évidemment, puisqu'ils sont les derniers arrivés. Est-ce qu'on fait un effort pour aménager le plan des sols, je dirais, pour avoir des mosquées là où on en a besoin, ne pas en avoir là où on n'a pas besoin, etc. Et pour franciser cet islam à travers ce mouvement-là, ou est-ce qu'on laisse ça en jachère ? C'est une question, ça c'est